Bonsoir à vous tous. Merci donc d'être présents ce soir chez Filigrane pour rencontrer Catherine Cusset, prix Goncourt lycéen 2008 pour son livre paru chez Gallimard, Un brillant avenir. Catherine Cusset, bonjour. Merci d'être présent parmi nous. Merci de faire une escale à Bruxelles puisque vous vivez depuis 20 ans aux États-Unis. Alors on verra que c'est important, l'exil, surtout dans ce livre, avec le regard que vous nous proposez à travers un brillant avenir. Alors je vous ai présenté en disant prix Goncourt des lycéens 2008. Alors j'ai envie de vous poser comme question pour débuter cette rencontre. Est-ce qu'un prix change l'identité? Est-ce qu'un prix change votre identité? Parce que bien sûr, j'imagine que je ne suis pas le seul pour l'instant à vous présenter à travers ce prix. Et j'imagine qu'un prix, c'est déjà une identité qui est donnée de l'extérieur. Alors est-ce que ça change déjà votre identité, ce prix qui vous a été décerné récemment?
Alors, déjà, c'est une question, je pense que c'est une vraie question importante. C'est une question à laquelle je n'ai pas suffisamment réfléchi pour l'instant. Parce que quand on se retrouve pris dans cette course au prix de la rentrée littéraire, qui est là, finalement c'est mon 9e livre, mais c'était la première fois que j'ai participé à une rentrée littéraire et véritablement donc à une course au prix, hein, c'est comme une compétition avec des chevaux, c'est inévitable d'être pris dans ce jeu. On a beau avoir toute la distance, se dire ça change pas le livre, on l'a écrit, il est fait, c'est inévitable. Donc il y a forcément une déception déjà si on ne gagne pas. Il y a forcément une déception. Bon, à mon avis, c'est pas une déception à long terme, enfin j'espère que non. Et en fait, donc moi, j'avais un peu fait mon deuil des prix parce que je m'attendais absolument pas à avoir ce Goncourt des lycéens. Et donc, comme j'avais pas eu le Goncourt ni le Médicis, qui étaient les deux prix pour lesquels j'étais en lice, j'ai pensé bon ben tant pis, ça a pas marché, c'est pas un drame. Et celui de Goncourt des lycéens est donc arrivé comme une totale surprise, donc un plus quoi, un bonus, un cadeau, et qui m'a donné j'étais étonnée qu'un roman qui raconte l'histoire bon, c'est une histoire sur un demi-siècle, mais qui finalement est quand même l'histoire d'une femme âgée et qui raconte toute sa vie sur 60 ans et qui soit centrée comme ça sur une émigration de Roumanie aux États-Unis et sur le rapport d'une belle-mère et d'une belle-fille qui ne se comprennent pas autour de ce fils unique. Je me suis dit, mais où se retrouvent-ils, ces lycéens? Et puis le roman, bon, il n'est pas ni long ni court, il fait 370 pages. Mais je me disais, ce n'est pas le premier qu'ils vont lire parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de temps. Et en fait, ils ont dit qu'ils s'étaient sentis très proches des personnages, qu'ils avaient beaucoup aimé l'histoire et que le personnage était resté avec eux. Surtout le fait qu'ils le disent, qu'ils aient senti cette proximité m'a vraiment touchée. Parce qu'évidemment, quand on écrit, qu'est-ce qu'on veut quand on écrit je pense qu'on désire partager. On désire le plus possible partager. Alors partager avec des gens de 15 ans, c'est assez étonnant, quoi. Je m'y attendais pas.
Alors je vous ai posé cette question d'identité d'emblée parce qu'on peut dire que l'identité, c'est le ressort de ce livre puisqu'elle passe par une identité familiale. Vous l'avez dit, vous avez déjà cité la belle-mère, le fils, la belle-fille, c'est vraiment le trio. Et cette identité, eh bien, elle va fluctuer au niveau géographique. C'est vrai qu'il y a la Roumanie, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Italie, il y a Israël, je les cite un peu dans le désordre. Et puis il y a l'identité qui fluctue également selon le temps, l'espace, les différentes étapes d'une vie. Donc c'est vrai que l'identité, c'est peut-être là justement où il y a une identification. On peut tous s'identifier à une étape de votre roman.
Parce qu'il y a tous les âges de la vie, vous voulez dire. Oui. enfin, Elena, donc, en même temps, c'est un parcours qui est celui d'une jeune fille née dans un pays communiste, donc en Roumanie, en Roumanie communiste, qui a grandi, qui a été ballottée par l'histoire, qui a suivi ses parents adoptifs, et qui ensuite a rencontré un juif dans une Roumanie antisémite, et dont elle est tombée amoureuse. Et je crois que c'est aussi le moment où elle a pris son destin en main. C'est une jeune fille très docile qui, finalement, le gouvernement communiste n'a pas marqué sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Jacob. Elle était ni contre ni pour, elle ne manquait de rien, elle n'était pas une rebelle, elle n'en souffrait pas. Et puis tout à coup, l'aspect comme ça, le politique, ce que signifie un État totalitaire est entré dans sa vie. Et elle s'est aperçue d'abord que par ses parents qui lui ont dit « Oh là là, mais en épousant un juif, mais tu risques de perdre ton travail. » Puis que vont dire les gens? Et c'est pas qu'on est antisémite, on l'est pas du tout. Hein, on l'est pas. Mais tu vas pas te rendre la vie facile. Hein. Et donc, à partir de là, elle a eu ce désir de quitter la Roumanie, de quitter un pays où on pouvait comme ça, entrer, enfin se mettre entre elle et ce qu'il y avait de plus intime en elle. Et puis, elle a découvert que ce pays-là, on ne pouvait pas le quitter. Donc c'est vraiment par cette histoire d'amour qu'elle a fait, la découverte du politique et aussi la découverte de ce que c'est que la liberté.
C'est sans doute pas un hasard si vous avez choisi la Roumanie qui symbolise bien peut-être le corps social à travers l'évolution, sa révolution de 89, puisqu'il y a l'identité individuelle et collective, et peut-être que la Roumanie symbolise bien justement le changement, l'évolution, la révolution, plus que les autres pays.
Je sais pas si ça symbolise le changement, c'est surtout que la Roumanie, elle est le seul pratiquement pays, seul pays je crois, à l'Europe de l'Est qui a eu en 89 une révolution violente, justement, parce que Ceausescu voulait pas lâcher le pouvoir. Alors que dans les autres pays, ça s'est fait assez doucement. Là, il y a eu... C'est dans le bloc communiste, un des pays les plus totalitaires, où pendant 50 ans, on a vécu dans une sorte de suspicion permanente, de méfiance permanente. Il y a une sorte de paranoïa roumaine, de sentiment de conspiration. Et je crois que ça contribue à l'identité, justement, de ce personnage d'Elena. Le communisme y contribue, le fait aussi qu'elle soit née, que c'est une petite fille donc née de ses parents, enfin née, on ne sait pas de qui d'ailleurs, enfin adoptée, quand je montre les scènes de son enfance, c'est toujours des scènes où elle est blessée, enfin elle est jamais en confiance. Ce qui manque fondamentalement à mon personnage Elena, c'est la confiance en l'autre, ce qui permet la relation à l'autre, parce que comment une relation à l'autre est-elle possible sans confiance? Et c'est ça aussi qui bien sûr qui va rendre la relation entre elle et sa belle-fille impossible.
C'est ce que j'allais dire, d'où la génération suivante, d'où la belle-fille, puisqu'elle a un fils, finalement, elle a tout quitté, elle s'est battue pour épouser son Jacob, elle y parviendra, elle mettra de la distance par rapport à son pays d'origine, puisqu'elle vit aux États-Unis. Évidemment, une fois que son fils tombe amoureux d'une Française, elle se dit, est-ce qu'on peut encore avoir un brillant avenir, justement, avec une Française qui risque, finalement, d'anéantir les projets qu'elle avait pour son fils?
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être le moment de lire un tout petit passage, si j'arrive à le retrouver.
Qui va illustrer ce propos, puisque Elena, elle est devenue Hélène aux États-Unis. Hein, donc, elle a son fils qui tombe amoureux, justement, de cette Française. Et comme vous l'avez dit, comme elle manque de confiance, c'est toute l'appréhension de l'arrivée de la belle-fille, puisque c'est vraiment ça le cœur du roman, c'est la relation belle-mère-belle-fille.
Donc c'est les parents qui parlent à leur fils Alexandrou au moment où il a décidé d'épouser Marie, cette Française. « Nous pensons que tu commets une erreur, Alex. C'est notre devoir de parents de t'en avertir. Nous avons une expérience de la vie que tu n'as pas. Nous ne pouvons pas te regarder gâcher ta vie sans intervenir. Mais je ne gâche pas ma vie. Je... Ne m'interromps pas. Si on ne peut pas t'empêcher de te marier, on peut encore s'exprimer sans que tu nous coupes la parole. » Alex appuie sur le dossier de sa chaise et les lèvres pincées allument une des longues cigarettes de sa mère. « Marie est française, » continue Jacob, sans un regard pour Marie, comme si elle n'était pas là. Mais c'est à cause d'elle qu'il s'adresse à son fils en anglais, lentement et avec un accent prononcé. « Un jour ou l'autre, elle retournera en France. Aucun Français ne choisirait d'émigrer aux États-Unis. C'est compréhensible. La France est un pays merveilleux, pourquoi le quitterait-on? Mais c'est aussi un pays où l'on doit parler sans accent pour réussir socialement et professionnellement. » Ta mère et moi parlons anglais avec un fort accent roumain parce que nous avons appris l'anglais tard. En Amérique, ce n'est pas un problème. Ici, tout le monde vient d'ailleurs. Et toi, Alexandrou, tu n'as même pas d'accent quand tu parles anglais parce que tu es venu ici assez tôt. Tu es devenu un vrai Américain. Notre vie n'a pas d'autre but, faire de toi un homme libre dans un pays libre. Nous avons tout sacrifié pour ton avenir et maintenant tu veux le gâcher en quittant ce pays qui a été si généreux envers nous. Tu brises le cœur de ta mère.
Alors Catherine Cusset, cet extrait lu justement illustre bien sans doute une problématique actuelle que vous mettez en scène à travers ce roman familial. C'est vrai qu'aujourd'hui dans les pays en crise, dans les pays en guerre, on parle souvent du devoir ou du droit d'ingérence. Donc on pourrait dire la même chose par rapport aux parents. Est-ce qu'il y a un devoir ou un droit d'intervenir par rapport au choix de leurs enfants?
Alors c'est drôle parce que il y a quelque chose que m'ont dit les lecteurs de ce livre dont moi, finalement, je ne m'étais pas vraiment rendu compte parce que bon, ce livre est peut-être aussi un peu basé sur... Il y a de l'expérience personnelle dans ce livre. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais Hélène, donc mon personnage Elena, qui devient Hélène aux États-Unis, elle n'aime pas son fils puisqu'elle ne le laisse pas être qui il veut être. Elle ne le laisse pas partir, elle ne laisse pas épouser qui il veut, elle ne supporte pas sa belle-fille. Et en fait, je n'ai jamais considéré cette idée-là. Pour moi, il est évident qu'Hélène aime de façon absolue son fils. Et je crois que c'est quand même le cas des immigrés et des enfants d'immigrés. Et c'est difficile à comprendre si on n'a pas cette expérience-là de l'immigration. Surtout des immigrés, je dirais, avec un fils unique. Et des immigrés dans le cas de cette famille-là, c'est-à-dire de Jacob et de Elena, qui ont quitté la Roumanie à 40 ans pour Israël, d'abord, parce que c'était la seule porte de sortie de Roumanie en 1974, qui ont tout recommencé à zéro, qui ont appris une nouvelle langue, l'hébreu, qui ont cherché du travail, qui ont tout fait, et puis à nouveau, 8 mois plus tard, repartis, d'abord des mois d'attente à Rome, sans savoir ce qui va leur arriver, et enfin, dans la misère totale, sans avoir rien d'autre qu'une toute petite valise, une émigration aux États-Unis, où à nouveau on apprend une langue étrangère, l'anglais, où on recherche du travail, où pour gagner de l'argent le plus vite possible, on va apprendre un nouveau métier, qui est un nouveau métier au début des années 80, qui est la programmation d'ordinateurs, parce que ça permet de gagner de l'argent vite, peu importe si ça les intéresse ou pas. Ce n'est pas la question que ça les intéresse. Leur vie est entièrement vouée, sacrifiée à produire l'argent qui va permettre de donner au fils la meilleure éducation et le meilleur avenir. Donc comment, à partir de là, serait-il possible que le fils exprime un désir individuel s'opposant à ses parents qui ont tout fait pour lui? Et je crois que c'est quand même le cas typique d'une famille d'immigrés où, d'ailleurs, le fils Alexandrou n'est pas en révolte contre ses parents. Il a sur ses épaules le poids de la dette. Il serait un fils horrible. Il épouse quand même Marie. Il épouse la femme dont ses parents ne veulent pas. Mais il respecte ses parents, il les aime.
Et justement, là, vous parlez, il respecte ses parents, il les aime. Je crois que c'est un roman qui est vraiment sur le respect, malgré les différences, quelles qu'elles soient. Parce qu'il n'y a aucun jugement sur aucun de vos personnages, sur les actions, sur ce qu'ils font, justement. Et malgré tout, malgré les différences, justement, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, il y a une grande forme de respect entre eux.
Et c'est peut-être même mon projet littéraire, par excellence, je crois, c'est de ne pas juger. C'est d'essayer de voir les rapports entre les gens et la vie en général de différents points de vue. Ce qui n'est pas toujours le cas des écrivains. Souvent, les écrivains, au contraire, ils écrivent d'un point de vue et ils sont dans une position de victime ou de souffrance. Alors que moi, j'ai souvent tendance à me déplacer. Ce n'est pas seulement dans ce roman-ci, dans La haine de la famille, c'est aussi à la fois le regard sur la mère et le regard de la mère sur la fille. Donc, c'est les deux regards à la fois. Et là, dans ce roman-ci, c'est d'ailleurs ce qui complique un peu sa construction, hein, parce que ce roman n'a pas une construction simple. Parce que d'abord, il a deux histoires. Il a une histoire qui raconte donc, la vie d'Elena depuis sa naissance en Roumanie en 1936 jusqu'à le moment où elle reçoit la sponsorisation qui va lui permettre d'émigrer aux États-Unis quand elle est à Rome en 1975. Hein. Donc on suit cette histoire-là de façon chronologique. Et entrelacée à cette histoire-là, il y a une autre histoire contemporaine qui est aux États-Unis de 1988 à 2006. Pourquoi 1988 ? Parce que c'est le moment où entre dans sa vie une autre femme qui est Marie, qui est cette Française qui va épouser son fils et le prendre. Hein. Mmh. Donc quelque part qui renverse ce destin que Hélène tenait en main. Mais les chapitres de la partie contemporaine, on les voit de deux points de vue, c'est-à-dire du point de vue d'Hélène et du point de vue de Marie.
Justement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de jugement, vous n'avez pas voulu juger, vous avez voulu essayer de comprendre en partant justement dans le passé, dans l'enfance. C'est vrai que juger, on peut le faire très vite, très facilement. Comprendre, ça demande du temps et d'aller très loin. Et comme je le disais, vous aussi, vous êtes parti il y a 20 ans aux États-Unis. Donc le déracinement, l'exil, vous connaissez, parce que ça pose ici toutes ces questions-là dans ce roman. Donc ça vous a sans doute également nourri aussi pour cette trame de recul et de respect.
Mais à vrai dire, c'est plutôt quelque chose d'autre qui m'a nourrie, c'est justement le sentiment d'une différence. C'est-à-dire que, bon, moi je vis depuis 18 ans aux États-Unis, et je passe tous mes étés en France.
En Bretagne,
voilà, comme Marie. Mais quand j'arrive à Paris, si j'ai passé une année absente de Paris, parfois j'essaie de rentrer pendant l'année, mais même au bout de 6 mois, je débarque à l'aéroport à Roissy, et je ressens parfois une vraie émotion d'être dans mon pays d'origine, d'entendre les gens parler français. Tiens, je suis chez moi. Discutant avec... ayant l'expérience de ces émigrés, puis ceux donc, proches de moi, qui étaient ma belle-mère, et d'autres gens aussi autour de moi, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucun désir de retourner dans le pays, aucune émotion, aucune nostalgie. Et c'est vraiment ça qui m'a fait m'interroger. Je pensais, mais quelle différence ! Je ne suis pas une exilée. Je ne viens pas de l'Est. Je n'ai pas vécu cette rupture-là. Moi, je n'ai pas rompu. Je reviens tous les ans dans mon pays, je suis une expatriée, j'ai de la nostalgie, mais je ne suis pas, je n'ai pas rompu avec mes racines, je ne suis pas déracinée. Et donc j'ai vraiment essayé de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir rompu avec son passé ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que cette rupture est possible ? Est-ce qu'une telle violence est possible ? De rompre, de ne jamais revoir ses parents avant leur mort, d'avoir une telle rancœur à l'égard d'un pays, un tel ressentiment. Et bien sûr, ce que le roman, si le roman est construit de cette manière, en alternant sans arrêt le passé et le présent, c'est parce que le vrai sujet du roman, c'est le rapport entre le passé et le présent. Et mon désir, en fait, de montrer que le passé est là, et pas seulement parce qu'il est là dans l'histoire, mais parce qu'il est là dans le présent, justement. Le passé ne s'en va pas.
Pour ce titre de ce roman, Un brillant avenir, est-ce que le fait que l'adjectif soit placé avant, est-ce qu'il y a une nuance, un brillant avenir, ou on aurait pu dire un avenir brillant ? Est-ce qu'il y a éventuellement une subtilité à y trouver, ou pas ? Comme je dirais que si un avenir brillant, on le projette demain, on espère un avenir brillant, tandis que si on dit un avenir brillant, qu'on passe l'adjectif à après, c'est que l'avenir, il a déjà eu lieu et qu'on peut dire s'il l'a été ou pas.
Alors là, je sais, là vous me mettez dans une classe de ces subtils, de grandes subtilités de langue. Si j'étais en train de faire une explication de texte à l'agrégation, peut-être je me livrerais, mais je crois que c'est plutôt une expression de dire, on dit un brillant avenir, c'est une expression, hein. C'est des mots un peu clichés en fait, un brillant avenir. Et puis bon, je les ai trouvés dans le roman parce qu'ils sont là à un moment où Hélène, le jour du mariage, où elle assiste finalement de son fils avec Marie, se dit peut-être que finalement une épouse française n'empêchera pas Alexandrou d'avoir un brillant avenir. Donc ce brillant avenir, ça a ce côté un peu fantasme. Qu'est-ce que c'est un brillant avenir ? C'est rien, un brillant avenir. C'est un côté arrivé comme ça, réussite matérielle. Et c'est évident que c'est pas de ça que parle le livre, justement. C'est que ça n'existe pas, le brillant avenir. D'ailleurs, le livre s'appelle Un brillant avenir et il commence par un suicide. Donc, un suicide à la fin de cette vie-là.
C'est
donc,
vrai que c'est terrible. On ne va pas trop dévoiler.
Mais c'est au début, c'est le premier chapitre. Donc, ouais, je ne révèle pas grand-chose.
Et quoi, finalement, la vie de couple, alors, puisqu'on révèle, c'est vrai qu'il y a cette forme de suicide. C'est le couple, finalement, c'est de vivre les choses ensemble et pas sur des continents séparés. De continuer à dormir ensemble, parce qu'il y a aussi la symbolique de dormir ensemble qui accompagne ce livre. Et cette scène de suicide, elle commence aussi par cette problématique-là de dormir ensemble.
Oui, puisque Hélène est fatiguée et décide de mettre un matelas gonflable dans le salon ce soir-là. Et c'est une vieille dame qui a besoin de dormir. Et son mari, donc, dans la solitude de ce lit conjugal, se tue cette nuit-là. Donc. Mais, ouais.
Et là, c'est là que commence l'histoire de façon dramatique. Le livre est là pour prolonger la rencontre avant. Alors avant de céder la parole aux personnes qui sont parmi nous aujourd'hui, sans doute qu'ils ont également leurs questions à poser, moi je voudrais juste citer des mots de Victor Hugo que vous citez dans ce livre, et je trouve ça très beau, et qui représentent, selon moi, lecteur, votre livre. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. C'est un roman d'âme que vous nous offrez.
Ben merci. Vous savez, c'est parfois des petites choses qu'on met dans les livres comme ça, qu'on place quand on les aime vraiment beaucoup. Et j'avais envie que Elena, en Roumanie, à 14 ans, que j'imaginais forcément francophile, parce que les Roumains... Enfin là, Hélène et Jacob ne parlent pas français, mais elle le parlait enfant, donc Elena. Et elle pouvait emprunter des livres, et j'ai voulu qu'elle lise Les Misérables. Parce que moi, c'est un roman que j'ai lu à 10-12 ans, et que sans doute dans une version abrégée, d'ailleurs, parce que je l'ai relu récemment, et je sais pas, ça me paraît... Impossible que je l'ai lu dans cette version-là. Il y a des parties très difficiles, j'ai trouvé historiques, très longues comme ça. Mais c'est magnifique. Et Hugo a cette espèce de pouvoir, cette machine rhétorique comme ça qui se déroule, qui emporte tout le monde. Mais en même temps, j'étais vraiment frappée par l'histoire de Jean Valjean qui sauve cette petite Cosette et puis qui se retrouve seule à la fin du roman. Il y a cette solitude du vieil homme. Et c'est vrai que c'était un peu un écho pour moi dans le roman, la solitude d'Hélène à la fin. Et oui, c'est un roman d'âme. Oui, enfin, je crois que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. Je sais pas si ça existe l'âme, mais si, il y a quelque chose quand même. D'ailleurs, le simple fait que vous sembliez comme ça sensible à certaines choses précises du roman et comme un signe d'accord, je sais pas. C'est...
Et d'où ce fameux Goncourt des lycéens 2008, qui est un très beau prix justement, parce que je pense que ce sont justement des jeunes adultes qui ne sont pas encore trop pris dans la vie d'aujourd'hui, qui réagissent justement avec l'émotion. Parce que ça, c'est la plus belle des choses sans doute. Quand on écrit, quand on lit, c'est l'émotion, et c'est sans doute ça qui nous unit tous dans la vie, quelles que soient les étapes. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un très beau roman, un roman coup de cœur de Marianne qui vous suit depuis très longtemps et qui, dès la première lecture en cette rentrée littéraire, vous a classé en coup de cœur ici chez Filigrane. Alors, avant que vous rencontriez Catherine Cusset, de vous faire dédicacer son livre, je ne sais pas si vous avez envie de lui poser des questions publiquement. Oui, alors je vais venir avec vous, avec le micro, comme ça tout le monde vous entend bien, parce que sinon, ceux qui sont un peu trop loin ne vous entendent pas. Vous faites comme si le micro n'existait pas et vous vous adressez à Catherine Cusset.
Non, mais ce rapport entre la belle-mère et la belle-fille, même si, évidemment, elles sont plus étrangères l'une à l'autre parce que l'une est française et l'autre est roumaine, il existerait peut-être de toute façon parce que le rapport entre, enfin, une belle-mère qui a un fils unique, une mère qui a un fils unique, accueille toujours une belle-fille comme une étrangère. Mm-hmm. Donc, je crois que même abstraction faite de cette... de cette étrangeté, disons, des deux, peut-être que le rapport serait aussi très difficile.
Je pense que, oui, vous avez raison, une mère d'un fils unique, moi-même, j'en ai pas l'expérience, hein, mais il y a quelque chose de structurel, oui, dans le rapport belle-mère-belle-fille autour d'un fils unique, je pense qu'il y a, presque une opposition presque structurelle, parce que c'est quand même un amour qui est porté au même homme, quoi. Il y a une autre femme qui prend. Et là, s'ajoute à ça, donc à cette opposition structurelle, tout cet arrière-plan historique, hein, qui est de l'Est et de l'Ouest, et donc de l'incompréhension totale, culturelle totale de ces deux femmes, qui n'ont même pas de langage commun. Et Marie ne comprend évidemment pas d'où vient cette belle-mère. Enfin, elle finit par le comprendre un peu, mais finalement, quand même, c'est un trajet de compréhension. C'est pour ça que ce roman qui commence par un suicide ne s'achève pas sur le suicide. Parce que je crois que c'est sans doute d'ailleurs de mes romans le plus apaisé. Il y a un trajet qui se déplace ailleurs et il y a quelque chose qui se passe entre ces deux femmes, une sorte de reconnaissance, de compréhension. Donc on dépasse la haine. Parce qu'elles ne veulent pas le perdre, oui, mais aussi parce qu'à un moment il s'absente. D'ailleurs il part travailler en Turquie. Ce qui est peut-être qu'il, bon, parce qu'il était au chômage, mais peut-être que fondamentalement, il fallait qu'il fuit, qu'il ne supportait pas ce conflit des deux femmes. Et c'est d'ailleurs dans son absence qu'a lieu la première réconciliation entre la belle-mère et la belle-fille, parce qu'il n'y a que deux femmes en Amérique à qui il manque autant, et ce sont elles deux. Donc c'est le premier moment où finalement quelque chose se passe entre elles. Avant la naissance, on m'a beaucoup dit, il y a une petite fille, et c'est là, finalement la troisième génération qui fait le lien. Mais avant même qu'intervienne la troisième génération, il y a, dans l'absence, une sorte de communion qui se fait entre ces deux femmes. C'est peut-être d'ailleurs qu'on pourrait imaginer autour d'un mort une réconciliation comme ça de la veuve et de la mère. Enfin, c'est la même souffrance.
Alors, j'ai lu aussi les deux précédents, Confession d'une radine et La haine de la famille. Merci de les avoir écrits parce que ça m'a libérée. Je me suis dit, oh là là, je me suis reconnue et plein de gens se sont reconnus, j'imagine, ouais. Notamment dans Confession d'une radine. Merci beaucoup.
C'est que les non-radins qui se reconnaissent, hein, je vous le dis tout de suite.
D'accord.
Les autres, ils disent c'est très drôle votre livre, mais moi, je ne me reconnais pas du tout.
Moi, je me suis franchement reconnue. Alors, écoutez, justement, à propos de drôle ou pas drôle, je me suis dit, mais où est passé l'humour? Parce que je me suis dit, chouette, hein, Catherine Cusset. Alors, j'ai beaucoup aimé votre roman aussi, celui-là. Mais je me suis dit, tiens, on est passé à un autre registre. Et pourtant, elle parle de choses graves aussi dans les précédents, mais avec humour. Là, on parle d'une chose grave aussi, finalement, qui est le déracinement et la filiation, etc. Mais alors là, par contre, l'élément humoristique a complètement disparu.
Parce que les deux autres livres dont vous parlez, ils sont écrits à la première personne, en mon nom. Enfin, même s'il n'y a pas de nom, ils sont écrits à partir de moi. Et ce qui met en cause, d'ailleurs, c'est moi, et c'est pour ça que c'est drôle. C'est-à-dire que c'est une façon, peut-être, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'explorer ce qui souvent n'est pas dit. Et là, ce n'était simplement pas possible. C'était une démarche qui n'était pas possible. Pas encore ou pas possible, je ne sais pas. Et voilà, donc je crois que ce n'est pas un choix. Hein. De même que je n'ai pas choisi d'écrire des livres drôles avant. Le drôle est vraiment venu d'une posture, je crois, du moment où je décide d'aller au bout de quelque chose. C'est peut-être ma façon de me voir moi, de voir le monde. Là, dans ce livre-là, puisque j'ai raconté comment je m'étais déplacée de mon point de vue à celui de l'autre... Alors, il y avait le risque de rater complètement, parce que finalement, je me suis éloignée de moi dans ce livre. Hein. Mais c'est autre chose. C'est un livre grave, ouais, plus calme et plus grave. Alors, ce n'est pas un choix. Je n'ai pas dit, voilà, maintenant, je vais écrire un livre qui sera sérieux. Ce n'est pas du tout un choix. C'est que ce livre-là, qui est évidemment un sujet important, que il n'a pu être comme ça. Voilà, il n'a pu se transformer que comme ça. Peut-être que la version d'Alexandro et de Marie, la première version, aurait été plus drôle, je ne sais pas. Je ne sais pas, de toute façon, elle n'existe plus maintenant. Donc...
Voilà, et puis on a droit à la version d'aujourd'hui qui est éditée, parue, primée donc chez Gallimard, un brillant avenir par vous, Catherine Cusset. Un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci.
Ah ben merci, c'est déjà fini. C'est dommage, je vous aurais bien gardé encore 2 heures.